Vous écoutez, on lit pour vous.
Que faire de sa maison lors d'une séparation? Un texte de Camille Dauphiné-Pelletier paru le 2 février 2025 dans La Presse. Un couple qui se sépare alors qu'il vit dans la même maison, c'est stressant. Notamment pour la gestion du nouveau casse-tête financier. Des spécialistes du domaine hypothécaire nous présentent 6 erreurs à éviter pour ces ex qui doivent décider du sort de cet important actif familial. Pensez que quitter la maison nous retire du prêt hypothécaire. Commençons par la base. Si les deux noms sont sur le prêt hypothécaire, les deux personnes sont responsables du paiement. À partir du moment où on est tous les deux propriétaires, on est conjointement responsable tant que les changements n'ont pas eu lieu, confirme Mylène Grenier, courtière hypothécaire chez Multiprêt, établie à Victoriaville et membre de la Chambre des notaires. Si l'un des deux conjoints reste dans la maison et qu'il fait tous les paiements, on peut penser que l'affaire semble réglée, qu'il s'agit d'une entente transitoire et qu'on s'occupera du reste plus tard. Mais attention! Si le conjoint qui demeure dans la maison ne fait plus les paiements complets, celui qui a déménagé en sera responsable. Cela peut rapidement poser problème si, par exemple, la personne qui habite désormais ailleurs paye aussi un loyer dont elle est la seule responsable. Ça veut aussi dire que si un nouveau conjoint emménage dans la maison, il ne devient pas automatiquement responsable du prêt hypothécaire. On peut donc se retrouver à devoir payer pour la maison dans laquelle son ex habite avec un nouveau conjoint, d'où l'intérêt de ne pas faire traîner la situation. Tenir à 100% à garder la maison familiale. La plupart du temps, lors d'une séparation, l'un des membres du couple va souhaiter conserver la maison, confirment les spécialistes à qui la presse a parlé. C'est particulièrement vrai quand des enfants sont impliqués. On se dit que c'est la maison où on a passé les dernières années, il y a une histoire familiale, on a peut-être eu nos enfants dans cette maison, on les a élevés là, ça a une valeur sentimentale, donc c'est sûr que c'est souvent le premier réflexe, affirme Mylène Grenier. Cela peut être une bonne option, mais il faut veiller à ne pas mettre des œillères qui nous empêcheraient d'en considérer d'autres. Il est rare que le conjoint qui souhaite garder la maison puisse rembourser immédiatement la portion de la maison qui appartient au conjoint qui part. Donc, souvent, ça implique un refinancement. Et c'est là que les choses peuvent se corser. Les gens ont tendance à penser que s'ils sont capables de payer les mensualités seuls, ça devrait aller. Mais le refinancement est plus complexe. Généralement, à moins d'une entente à l'amiable, l'évaluation va être faite sur la nouvelle valeur de la propriété qui risque d'être plus élevée que lors de l'achat. Donc, la personne pourrait devoir se qualifier sur un prêt encore plus gros, et cette fois, avec un seul salaire, souligne Maxime Tremblay, directeur développement hypothécaire pour la Banque nationale. Si le financement est possible et que le versement mensuel peut être assumé par le conjoint qui reste, pas de problème. Mais s'il faut vraiment aller gratter dans tous les coins pour se qualifier, par exemple en vendant des actifs auxquels on tient, en sortant des placements qui avaient été faits en prévision de la retraite ou en faisant entrer de façon précipitée dans la maison un nouveau conjoint, ça peut valoir la peine de considérer d'autres options, poursuit-il. Mylène Grenier abonde dans le même sens et souligne qu'il faut procéder, comme dans le cas d'une vente à un étranger, en établissant ce que la maison vaut sur le marché en date d'aujourd'hui. Mais, avant toute chose, il faut prendre un petit peu de recul et évaluer toutes les options possibles, souligne-t-elle. Refuser catégoriquement de redevenir locataire. Une séparation est un moment difficile durant lequel notre identité se trouve souvent ébranlée. L'idée de retourner en logement peut avoir l'air d'un recul pour certains. La location n'a pas à être un choix permanent si ce n'est pas ce qui est souhaité. Passer quelques mois ou un an dans un logement peut permettre de réajuster ses finances en vue d'une prochaine qualification et même de réévaluer sa situation conjugale en prévision d'un futur achat. Habiter, par exemple, dans un condo locatif permet aussi de voir si on préférerait acheter un condo plutôt qu'une maison. Les besoins évoluent dans le temps. Les enfants peuvent être partis de la maison et on a moins envie d'entretenir une grande propriété seule, souligne Mylène Grenier. Certains vont aimer mieux aller dans un condo par la suite pour avoir quelque chose qui est à eux quand même, mais qui implique moins d'entretien et de responsabilité, vu qu'il n'y a plus de partage des tâches, ajoute Maxime Tremblay. Bref, on a tout à gagner à analyser cette option en gardant la tête froide et non pas en l'imaginant comme un échec. À partir du moment où on a déjà le deuil du couple, faire le deuil d'avoir une propriété, c'est un gros morceau aussi. Souvent, sous le coup de l'émotion, les gens ne prennent pas nécessairement les bonnes décisions, remarque Mylène Grenier. Vous écoutez « Que faire de sa maison lors d'une séparation », un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 2 février 2025 dans La Presse. Penser que c'est impossible de racheter seul. Dans sa pratique, Maxime Tremblay remarque que, dans les couples qu'il rencontre, souvent, l'une des deux personnes a moins d'éducation financière que l'autre. Celle-ci a souvent l'impression qu'elle ne serait pas capable de racheter la maison seule, même si son dossier est bon. Si les deux personnes ont acheté une propriété raisonnable, ça arrive souvent qu'avec la prise de valeur de celle-ci et l'argent de la vente de leur partie de la maison, les gens sont capables de redevenir propriétaires chacun de leur côté, dit-il. Pour se qualifier pour un prêt hypothécaire, plusieurs données sont prises en compte, mais il s'agit principalement de la mise de fonds disponibles, des revenus, du ratio d'endettement et de la cote de crédit. Le fait de s'être séparé avant d'avoir terminé de payer un prêt hypothécaire n'influence pas le dossier, assure-t-il. Ça vaut la peine de refaire une démarche de qualification, puisque toutes les données de votre ex-conjoint influençaient votre dossier pour le meilleur et pour le pire. La cote de crédit de votre ex jouait peut-être plus sur le dossier que vous le pensiez. D'ailleurs, votre situation personnelle pourrait aussi avoir évolué d'une façon qui influence le prêt. Si vous y étiez travailleur autonome depuis moins de 2 ans au moment de votre précédente qualification, votre salaire n'était carrément pas pris en compte. Si vous avez dépassé ce délai, il le sera. Si vous avez terminé de payer votre auto, votre capacité d'emprunt sera plus grande. Les règles dans le domaine des prêts hypothécaires ont aussi beaucoup évolué dans les dernières années. Bref, difficile de savoir si vous vous qualifieriez pour un achat sans faire de démarche avec un professionnel. Ça peut être très stressant parce qu'il y a un manque de connaissances. C'est sûr que nous, notre rôle, c'est de les éduquer et de les accompagner là-dedans, souligne Maxime Tremblay, qui ajoute que faire une démarche de préqualification hypothécaire est gratuit et n'engage à rien. Trop se gâter sans réfléchir. On l'a vu plus haut. Le ratio d'endettement est important lorsque vient le temps de se qualifier pour un prêt hypothécaire. Même si c'est tentant de se gâter à la suite d'une séparation, il faut veiller à ne pas mettre en jeu son admissibilité à un prêt qui nous intéresse. Maxime Tremblay voit souvent dans sa pratique des gens qui achètent par exemple une voiture neuve pile au moment où ils font des démarches pour un prêt hypothécaire, ce qui a un gros impact. Ce n'est pas le temps d'aller prendre des prêts pour des meubles, de remplir ses cartes de crédit en faisant un voyage ou d'acheter une nouvelle voiture. Maxime Tremblay, directeur développement hypothécaire pour la Banque nationale. Si le ratio d'endettement est élevé, un prêt contracté au mauvais moment peut tout changer pour la qualification. Tirer un trait trop vite sur le RAP. Le régime d'accession à la propriété, RAP, peut généralement être utilisé seulement si on n'a pas été propriétaire durant l'année civile en cours ni les quatre précédentes. Or, il y a une exception en cas de séparation. Comme la règle ne date que de 2019, elle est méconnue du public, souligne Mylène Grenier. Il est possible pour les conjoints d'utiliser à nouveau le RAP pour un achat dès leur séparation. Quelques conditions sont à respecter, dont le fait de vivre séparément depuis au moins 90 jours et d'avoir terminé de rembourser les sommes d'un précédent RAP dans son REER. C'était « Que faire de sa maison lors d'une séparation ?» un texte de Camille Dauphinet-Pelletier paru le 2 février 2025 dans La Presse.
Quand les vaches broutaient au parc Jarry. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir. Le parc Jarry, un des plus importants de Montréal, célèbre en 2025 son centenaire. Il subit à cette occasion une cure de rajeunissement en partie en lien avec les changements climatiques. Certains accès en sont bloqués pour des travaux qui doivent s'échelonner sur quelques mois. Les aménagements feront en sorte d'atténuer les effets des pluies et des eaux de ruissellement dans le parc. Dans cette perspective, plusieurs arbres doivent être plantés. Avec le Mont-Royal, le parc Jarry constitue, depuis le début du XXe siècle, un des espaces verts les plus prisés des Montréalais. Dans les années 1920, se souvenait le caricaturiste Robert Lapalme, les enfants des environs y conduisaient encore les vaches. Le parc en devenir n'était encore plus ou moins qu'une suite de packages. Une partie des bestiaux traversait avec leurs gardiens à la hauteur de la rue Villeray. Une location. À la différence de bien des espaces verts de Montréal, le parc Jarry n'est pas érigé sur une ancienne carrière abandonnée et par la suite comblée par des déchets. Les terrains qui constituent le parc que nous connaissons appartiennent, au début du XXe siècle, à Stanley Clark Bagg. Cet homme est l'un des plus gros propriétaires fonciers de l'île de Montréal. Ce richissime personnage possède, en bordure des lieux, une sorte de villa d'été. Des gens prennent l'habitude de se promener sur ces vastes terrains ombragés par des érables, des ormes et des cerisiers. À compter de 1925, une société immobilière, constituée à partir des avoirs laissés par Bagg, loue les terrains à la Ville de Montréal, à l'initiative d'un comité où siège le conseiller municipal Raoul Jarry. Et ce ne sera qu'en 1945 que la Ville de Montréal acquérera officiellement les lieux. Une exposition. À l'occasion du centenaire du parc, l'OBNL d'histoire urbaine « Mémoire de Petite Patrie, Villeray et la Petite Italie » promet pour l'été 2025, à la Maison de la culture Claude Léveillé, une grande exposition intitulée « Un siècle au parc Jarry, 1925-2025 ». Histoire, images, transition. L'exposition sera présentée du 5 juin au 24 août 2025 sur la base de travaux relayés depuis des années par la page Facebook de l'organisme. Coordonnateur du groupe, le professeur Karim Larose rappelle au Devoir que, dès les années 1930, des modules de jeu sont installés dans le parc pour les enfants, de même qu'une pataugeoire. La pataugeoire précède de beaucoup la construction d'une piscine. Un chalet sera aussi construit. Ce sont les travaux populaires mis en avant pour juguler la crise économique qui favorise ces aménagements, indique le professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Autrement dit, la vie des enfants apparaît au cœur des aménagements. Le parc Jarry apparaîtra, au fil du XXe siècle, comme un lieu privilégié pour les jeunes familles au cœur de la ville. Ce n'est pas pour rien que le 11 novembre 1931, jour de la commémoration de l'armistice, un avion lance du ciel plus d'un millier de sacs de bonbons aux enfants rassemblés dans le parc. L'événement a été publicisé au préalable. Il s'agit, pour une compagnie de ginger ale, d'assurer sa promotion à tout prix. Depuis un siècle, au beau jour de l'été, le parc Jarry n'a cessé d'accueillir des fêtes, des pique-niques familiaux, de même que des célébrations diverses. Quantité de mariages y ont aussi été célébrés. Un espace de baseball. Très tôt, dès les années 1920, le baseball fait son apparition au parc Jarry. Ce jeu ne cesse de croître en popularité. En 1969, les Expos de Montréal, première équipe canadienne de la Ligue majeure de baseball, vont y élire domicile avant de se reloger au stade olympique. Le petit stade de baseball du parc Jarry est agrandi pour les Expos. De 3000 sièges, il passe à 30 000 sièges. Le stade de baseball des Expos a été construit en partie en hiver, en catastrophe, pour pouvoir accueillir l'équipe lors de leur première saison, rappelle le chroniqueur sportif Jean Dion. Conçu sans trop de réflexion préalable, en utilisant celui qui se trouvait déjà là, le nouveau stade des Expos est mal orienté par rapport au soleil, ce qui conduit à des arrêts de parties impensables en d'autres lieux. Les bons frappeurs gauchers pouvaient, à l'occasion, envoyer la balle directement dans le bassin de la piscine adjacente, inaugurée en 1962. Au début des années 1970, c'est la pépinière Jasmin qui assure l'entretien du terrain de baseball. L'entreprise utilise une peinture verte pour donner l'illusion aux téléspectateurs d'un couvert végétal parfait. La rue Fayon-Ouest, qui bordait autrefois les abords du parc, est connue désormais sous le nom de Gary Carter, un des joueurs les plus populaires de l'histoire des Expos. Vous écoutez « Quand les vaches broutaient au parc Jarry », un texte de Jean-François Nadeau paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir. Tous les sports. Sait-on que le parc Jarry fut par ailleurs très important dans l'histoire du cyclisme en Amérique du Nord? Au printemps 1929, la construction d'un vélodrome s'organise à l'initiative du club cycliste Sylvestre. La piste nécessite 23 000 planches. De 50 à 60 cyclistes bénévoles aident chaque soir à la construction. Très abrupte, ces virages ont une inclinaison de 49 degrés. De nombreuses courses sur piste sont organisées sur place, mais aussi des arrivées de courses sur route. Ces événements sont si populaires que la police est appelée à y assurer l'ordre. Mais l'hiver venu, le bois des estrades disparaissait mystérieusement. Pour se chauffer, des gens viennent tout simplement y arracher des planches. 20 terrains de tennis sont inaugurés en 1956. Ce sport connaît depuis les années 1930 une popularité croissante, en partie à cause des bons résultats internationaux obtenus dans l'après-guerre par le tennisman Robert Bédard. À compter de 1981, des événements internationaux s'y déroulent. Dans les années 1990 et 2000, des terrains de tennis intérieurs, un court central et des gradins permettent aux internationaux de tennis d'acquérir une dimension supplémentaire. Une partie des infrastructures s'appuie au départ sur d'anciens éléments du stade de baseball. La passerelle de la presse, rappelle notamment Jean Dion, reprend celle du stade de baseball. Impossible de parler de l'histoire du soccer en Amérique du Nord sans croiser le parc Jarry. Chaque année, des milliers d'enfants jouent au soccer sur ces terrains. À compter des années 1950, bien des équipes aux noyaux nationaux divers jouent sur place. Quantité de parties y sont disputées. À la fin des années 1970, le parc Jarry sera même le théâtre de tournois internationaux. Si bien que la Fédération de soccer souhaitera longtemps obtenir que son chef-lieu soit planté en ces lieux. Elle ne parviendra pas à s'entendre avec la ville de Montréal à ce sujet. Le football américain sera lui aussi inscrit dans l'histoire du parc grâce à la présence des Alouettes à compter de 1959. Ils n'ont pas vraiment joué là, mais ils se sont entraînés dans le parc. Les gens allaient les voir, rappelle Jean Dion. Mais tous les sports, ou presque, y seront aussi pratiqués, y compris le hockey. Un parc pour tous. Après les émeutes de la Saint-Jean en 1968, des célébrations décentralisées de la fête nationale auront pour théâtre le parc Jarry. Le lieu sert aussi de théâtre à quantité de grands concerts en plein air, de Garoulou à Stevie Ray Vaughan, en passant par l'orchestre symphonique et Bob Dylan. Des milliers de personnes s'engouffrent dans le parc pour entendre Supertramp en 1979 ou Iron Maiden en 1998. Le parc accueillera aussi des rodéos et des matchs de lutte. En 1973, les Témoins de Jéhovah y débarquent pour y tenir leur congrès international. Le pape Jean-Paul II fait de même en 1984. Le chef de l'Église catholique y célébrera une messe devant 300 000 fidèles. Cette présence du prélat suscite un tel engouement qu'il est décidé de renommer le parc à son nom. Pas plus le nom du pape que celui des différentes entreprises qui entendent coiffer de leur identité des bâtiments du lieu ne réussiront à effacer l'identité populaire et première de ce parc, pour tous désormais centenaires. C'était « Quand les vaches broutaient au parc Jarry », un texte de Jean-François Nadeau paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir.
Cinq choses à savoir sur le sable. Un texte de Olivier Thibault, de l'agence France Presse, paru le 1er février 2025 dans la presse. L'extraction de sable un peu partout dans le monde est une activité méconnue, mais essentielle pour l'activité humaine, avec des enjeux économiques et environnementaux primordiaux. Voici cinq choses à savoir sur cette ressource abondante, mais limitée au regard d'une utilisation en forte croissance. Extraction triplée en 20 ans. Le sable est, en volume, la ressource naturelle la plus exploitée au monde, après l'eau. Chaque année, environ 50 milliards de tonnes de sable, de gravier et de roches concassées sont extraites ou produites selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, PNUE. C'est l'équivalent de la construction chaque année d'un mur de 27 mètres de haut et de large tout le long de la ligne de l'Équateur, selon le responsable des données du PNUE à Genève, Pascal Pedouzi. L'utilisation du sable a triplé en l'espace de 20 ans, en raison de l'urbanisation, de la hausse de la population, de la croissance économique et du changement climatique, liste le PNUE dans son rapport « Sable et durabilité, 10 recommandations stratégiques pour éviter une crise ». À quoi sert le sable? Sable et gravier sont la matière première de base pour fabriquer le béton. Il y a plus d'une tonne de sable et de gravier dans un mètre cube de béton. Il faut compter de 100 à 300 tonnes de sable et de gravier pour fabriquer une maison et 30 000 tonnes pour réaliser un kilomètre d'autoroute, car c'est aussi l'élément clé pour réaliser l'enrobé des routes. Il sert également à filtrer l'eau dans les stations d'épuration ou encore pour les opérations de poldérisation qui consistent à gagner des terres sur la mer. C'est enfin un matériau primordial pour l'industrie. Le verre est constitué à 70 % de sable. Il est également utilisé pour fabriquer des produits cosmétiques, des détergents et c'est l'élément de base du silicone. Où extrait-on le sable? Plus de la moitié du sable utilisé dans le monde va au secteur de la construction. En raison de leurs propriétés physico-chimiques, les grains de sable des déserts trop lisses et trop ronds sont impropres pour ce secteur. Ainsi, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont dû importer du sable d'Australie pour réaliser de grands projets d'infrastructures comme ceux de Dubaï. La majorité du sable utilisé provient de carrières terrestres, de lits de rivières ou de fleuves, de l'exploitation côtière sur les plages ou encore de l'extraction en mer à l'aide de navires spécialisés dits sabliers. Chine et Inde, les deux géants du sable. Chine et Inde sont les deux premiers producteurs mondiaux de sable. Sur une production mondiale annuelle de sable, au sens strict, sans inclure gravier et pierres broyées, d'environ 12 milliards de tonnes, la Chine extrait environ 7 milliards de tonnes par an et l'Inde un peu moins de 1 milliard de tonnes. Le numéro 3 mondial, les États-Unis, affiche une production inférieure à 300 millions de tonnes en 2018 selon le rapport Mapping Global Sand. En Europe, les principaux pays producteurs de sable et gravier sont la Russie, la Hongrie, l'Allemagne, la Pologne et la France, 114 millions de tonnes, d'après les chiffres de 2022 de l'Association européenne du secteur Aggregates Europe. Ressources abondantes mais limitées. Le sable a beau sembler être une ressource abondante. Ses quantités exploitables sont limitées face à une demande mondiale en forte croissance. Il faut plusieurs milliers, voire millions d'années pour produire le sable des plages. Or, aujourd'hui, le niveau d'extraction dépasse le taux de formation et de remplacement naturel du sable. En certains endroits de la planète, l'extraction effrénée de sable a déjà produit des désastres environnementaux comme dans le delta du Mékong, où son exploitation sauvage a provoqué l'érosion accélérée des berges. C'est aussi le cas sur les côtes marocaines où les prélèvements illégaux de sable par des trafiquants ont transformé des plages en paysages rocheux. Le PNUE préconise des réglementations plus efficaces pour préserver cette ressource cruciale, ainsi que la mise en place de solutions de rechange comme la transformation des résidus des mines en gravier et en sable. C'était 5 choses à savoir sur le sable, un texte d'Olivier Thibault de l'agence France Presse, paru le 1er février 2025 dans La Presse.